Europe 1.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. La guerre en Ukraine est-elle le point de départ d'une nouvelle division du monde entre deux blocs, les États-Unis et l'Europe d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre? Alice Ekman est une spécialiste de la Chine. Elle est ma première invitée ce matin. On reviendra ensuite avec Haroun, le jeune humoriste qui monte sur la gifle assénée par Will Smith à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars. Ce qu'a vécu Chris Rock, c'est le cauchemar de tous les humoristes. Un spectateur se sent offensé par une blague, il monte sur scène et vous colle une droite. Et oui, c'est dangereux le stand-up. Haroun va nous expliquer pourquoi. Et l'on terminera l'émission avec Emma Peters. Elle a 25 ans, elle sort son premier album. Un vent d'air frais sur la scène de la chanson française. Bonjour Alice Ekman.
Bonjour.
Vous êtes une spécialiste de la Chine à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. On se souvient du nouvel ordre du monde proclamé par le président Bush, le père, au moment de la guerre du Golfe en 1990. La Russie et la Chine, à l'époque, ne s'y étaient pas opposées. L'Amérique était le leader incontestable. Est-ce qu'on n'assiste pas, avec la guerre en Ukraine, à une nouvelle division du monde entre deux blocs? La Russie et la Chine d'un côté, les États-Unis et l'Europe de l'autre. Ça n'est pas nouveau, mais là, on dirait que c'est consommé.
Vous avez raison de dire que c'est pas nouveau, parce que cette division du monde émerge, pas tout à fait sous forme de bloc, mais sous forme de pôle, de manière relativement régulière, puisque les relations Chine-Russie se sont renforcées, consolidées fortement, notamment depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée. À l'époque, beaucoup d'analystes considéraient qu'il s'agissait d'un simple mariage de raison, c'est-à-dire que la Russie se serait tournée vers l'Est uniquement pour contourner les sanctions occidentales et trouver des débouchés pour ces hydrocarbures, et que finalement, il était souvent considéré que ce rapprochement sino-russe n'allait pas durer, parce qu'il est pragmatique et parce que finalement énormément de divergences existaient entre les deux pays. Certes, quelques divergences existent, notamment en Asie centrale, avec aussi le projet des nouvelles routes de la soie que la Chine a dû communiquer de manière, on va dire, plus douce vis-à-vis de la Russie. Mais au final, on note quand même une réelle convergence entre Pékin et Moscou, conceptuel et idéologique. Et j'ose le terme idéologique parce que les deux pays partagent aujourd'hui un très fort ressentiment envers les États-Unis, envers l'OTAN, et souhaitent clairement l'avènement d'un monde qu'ils considèrent post-occidental, même s'ils ne le caractérisent pas ainsi, en tout cas un nouvel ordre mondial où les États-Unis et leurs alliés ne seraient plus dominants. A essayé de marquer très clairement noir sur blanc dans leur communiqué conjoint du 4 février. Vous vous souvenez, c'est le document qui a été publié à l'issue de la visite de Vladimir Poutine en marge des Jeux Olympiques de Pékin d'hiver, hein, donc il y a près de deux mois. Et non seulement les deux pays ont affirmé dans ce document qu'ils allaient renforcer leur coopération stratégique, mais qu'ils se soutenaient mutuellement pour les enjeux d'intérêt commun, la Russie rappelant qu'elle soutenait la position officielle chinoise sur Taïwan notamment. Donc, la guerre en Ukraine a émergé et la Chine n'a pas ajusté son positionnement. Depuis, elle a réaffirmé que la Russie était son partenaire stratégique le plus important, son voisin le plus important, et elle s'est vigoureusement opposée aux sanctions, à toute sanction prise contre la Russie. En tout cas, au niveau officiel, l'opposition est très claire. Donc, pour revenir à votre question de la division du monde, on est quand même, outre la guerre en Ukraine, on est quand même dans une phase, on va dire, de polarisation du monde qui date depuis maintenant plus de 8 ans, qui n'est pas uniquement liée à la guerre en Ukraine au sens large, hein, depuis 2014, qui est liée aussi à des divergences idéologiques, mais aussi politiques fortes. Par exemple, sur le Xinjiang ou sur Hong Kong, des enjeux totalement différents de l'Ukraine, mais on voit bien que les votes aux Nations Unies sont très polarisés, avec un groupement de pays croissant, incluant notamment des pays de l'Union européenne, des pays, les États-Unis, le Canada, certains pays asiatiques, qui pointent finalement ce qu'ils considèrent être des problèmes majeurs de droits de l'homme concernant les deux enjeux. Et face à cela, la Chine essaye au maximum, à travers une diplomatie active, de rallier un nombre croissant de pays pour s'opposer aux critiques sur le Xinjiang et sur Hong Kong, c'est-à-dire pour soutenir les positions de Pékin. Elle arrive à rassembler entre 40 et 60 pays selon les déclarations conjointes. Donc on voit quand même que la Chine n'est pas isolée aujourd'hui. Et que finalement la rivalité sino-américaine qui existe, qui est forte, qui est consolidée, qui s'est renforcée depuis 2018 avec bien sûr des tensions commerciales et technologiques, mais cette rivalité sino-américaine n'est pas finalement limitée à une rivalité entre deux États. On est aujourd'hui dans une rivalité entre groupements de pays. En tout cas, la guerre en Ukraine souligne davantage le fait que des groupes de pays s'opposent sur des enjeux internationaux majeurs. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde plus spécifiquement le vote lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, donc du 2 mars, une écrasante majorité a voté la résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Donc 140 pays ont approuvé le texte sur 193 membres de l'ONU, mais se sont abstenus 35 pays, dont la Chine. Et 5 pays ont voté contre, donc la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. Donc on voit quand même que même si sur certains enjeux, une majorité des pays ont des positions convergentes, la convergence n'est pas globale et les pays qui finalement soutiennent aujourd'hui la Russie, en tout cas ne s'opposent pas directement à la position russe et aux agissements de la Russie, sont des pays qui en général aussi ne s'opposent pas aux actions de la Chine au Xinjiang ou à la question des droits de l'homme au sens large.
Oui, on voit des grands pays émergents hein, comme l'Inde et le Brésil qui n'ont pas voulu condamner la Russie. Il y a les Émirats arabes unis qui n'ont pas voté la condamnation de la Russie à l'ONU. L'Afrique, la Russie est devenue le premier fournisseur d'armes de l'Afrique, donc l'Afrique n'est pas forcément n'a pas forcément envie de s'opposer à la Russie. Puis l'Amérique du Sud et y compris en Asie, ils ne sont pas alignés, comme au temps de la guerre froide, il y a des non-alignés, mais enfin, on sent bien qu'ils n'ont pas envie d'être dans le camp occidental.
Oui, en effet. Alors après, tout ne se résume pas à des questions de vente d'armes. Et le Brésil, si mes souvenirs sont bons, a fini par voter pour la résolution. Mais vous avez raison de souligner qu'il y a vraiment donc, cette polarisation qui est manifeste avec, pour différentes raisons. Hein. Moi, je peux expliquer les raisons chinoises, en tout cas, essayer de les analyser parce que c'est mon travail. Mais les motivations sont différentes, que ce soit en Afrique ou en Asie. Le positionnement de l'Inde est différent de celui de la Chine, assurément, et certains pays africains que vous avez mentionnés également. Mais dans le discours aussi, il y a quand même un discours qui peut être qualifié, oui, d'anti-occidental ou même voire d'anticolonialiste, ou du fait finalement que pendant trop longtemps, l'Occident, les États-Unis en premier lieu, se seraient ingérés dans les affaires d'autrui, qu'il est temps de taper du poing sur la table. En tout cas, c'est vraiment le discours chinois aujourd'hui. Ce qui est intéressant de voir dans le discours chinois autant que dans le discours russe, c'est qu'il y a une convergence sur un discours anti-OTAN très fort.
Je vous propose de faire une pause, Alice Ekman, et puis on va revenir justement sur ce point précis.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Alice Ekman, qui est spécialiste de la Chine à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui lie stratégiquement la Chine et la Russie, Alice Ekman ?
Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, une volonté de restructurer la gouvernance mondiale. En tout cas, c'est-à-dire une volonté de s'imposer davantage, de mieux défendre leurs intérêts dans les organisations internationales. C'est le cas à l'ONU quand même, puisque tous les deux sont membres permanents du Conseil de sécurité, donc ont un certain poids. La Chine en particulier considère que pendant trop longtemps, les institutions internationales ont été façonnées condamnés par les États-Unis et certains pays européens, et qu'il est temps de les réformer sans nécessairement faire table rase de ces institutions, sans les modifier totalement, mais finalement essayer de les réformer de l'intérieur lorsque c'est possible, en renforçant un activisme diplomatique au quotidien. Donc on a déjà une volonté de réformer cette gouvernance mondiale, c'est-à-dire tout simplement renforcer leur influence, renforcer les coalitions qu'elles peuvent créer avec d'autres pays pour pousser leur positionnement. On a parlé des Nations Unies, mais il y a aussi une coordination au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, même si les deux pays ne sont pas toujours alignés, et puis des rencontres, des forums de sécurité annexes tels que le Vital Club, le Xiangshan Forum, etc. Au-delà de l'aspect institutionnel et un petit peu, on va dire, technique de la coopération, Chine et Russie se rejoignent sur le fait que, selon eux, la présence militaire occidentale de leur environnement géographique proche est illégitime. En tout cas, ils considèrent qu'il faut repousser au maximum ce qu'ils considéraient donc cette présence illégitime, et pour cela, ne pas hésiter à tester les limites, à défendre leurs revendications, voire à nommer ce qu'ils considéraient des institutions ennemies. Par exemple, vous avez certainement entendu parler de la création du concept Indo-Pacifique, et stratégie Indo-Pacifique, adoptée par les États-Unis, le Japon, la France, mais l'Inde aussi, entre autres nombreux pays, l'Australie, enfin la liste est longue. Le ministre des Affaires étrangères chinois a indiqué que, selon lui, l'Indo-Pacifique était une stratégie illégitime, une nouvelle forme d'OTAN en Asie vouée à l'échec. Alors, pour vous dire, une nouvelle forme d'OTAN en Asie, le mot OTAN dans la bouche d'un représentant officiel chinois et a un caractère péjoratif, en tout cas négatif. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Alors là, il faudrait remonter à l'histoire. Vous vous souvenez donc de la guerre en Yougoslavie, le bombardement en mai 1999 de l'ambassade de Chine à Belgrade.
Au moment où l'OTAN bombardait la Serbie pendant les événements au Kosovo.
Oui, c'est un bombardier américain de l'OTAN qui avait lâché 5 bombes sur la représentation diplomatique chinoise et qui avait tué donc 3 ressortissants chinois à l'époque. Les États-Unis avaient expliqué que c'était une erreur, l'administration Clinton, et la Chine a toujours refusé cette explication. Elle avait qualifié à l'époque l'acte de barbare. Le ressentiment anti-OTAN de la Chine s'explique en partie par cet événement, mais pas uniquement. Il faut aussi se rappeler que depuis Mao, il y a une rhétorique anti-américaine, anti-occidentale très forte, qui continue à peser sur, pas uniquement le discours chinois, mais aussi la perception chinoise au niveau officiel. Je parle bien au niveau officiel, pas au niveau de la population au sens large, mais il y a bien cette perception qui pèse et qui doit être prise en compte, puisqu'on note aujourd'hui sous Xi Jinping, le président actuel, qui est en poste depuis fin 2012, on note un renouveau idéologique qui a des conséquences en termes de politique intérieure, mais aussi en termes de politique extérieure. Et notamment, ce ressentiment anti-occidental est exacerbé, s'exprime aujourd'hui au grand jour, beaucoup plus fortement que lors du mandat de Hu Jintao de 2002 à 2012. Donc, tout ça pour dire que le ressentiment anti-OTAN est très fort pour des raisons idéologiques historiques, mais aussi très contemporaines. La Chine est aujourd'hui une menace entre guillemets discutée très fortement à l'OTAN. Enfin, fortement en tout cas, elle n'entre pas traditionnellement dans le cadre de la réflexion stratégique de l'OTAN, mais c'est un sujet qui fait quand même l'objet d'études et d'analyses concrètement, parce que la Chine aussi on a observé une présence militaire chinoise en Europe, notamment exercice militaire conjoint Chine-Russie en mer Méditerranée, en mer Baltique, aussi en dehors de l'Europe, en mer de Chine du Sud, etc. Mais ces exercices militaires conjoints Chine-Russie en mer Méditerranée ou en mer Baltique, qui ont eu lieu entre la période 2014 et la période actuelle, ont accéléré les discussions sur la menace potentielle chinoise en Europe, en coopération avec la Russie. Donc, on est dans un environnement géostratégique finalement très tendu, qui explique aujourd'hui, en tout cas cette paix, ces perceptions et ces positionnements expliquent en grande partie aujourd'hui le rapprochement sino-russe et le fait que la Chine officiellement continue à soutenir fortement toujours celui qu'elle appelle un premier partenaire stratégique. Et je ne vois pas, moi, à court terme, de signe d'érosion de cette relation. Certes, il y a des sanctions très fortes.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que la Chine profite de ce que la Russie est en train de faire en Ukraine pour faire la même chose à Taïwan ?
Alors ça, c'est le parallèle qui est souvent posé, hein, mais concrètement, les enjeux sont très très différents. Mon analyse, après tout est sujet à débat, mais c'est tout d'abord de dire que la Chine a une stratégie vis-à-vis de Taïwan qui lui est propre. Elle n'a pas eu besoin de la Russie ou de l'exemple ou le contre-exemple ukrainien pour définir sa stratégie, hein, et ses objectifs. Il reste de la réunification. Et certes, ce qui est certain, c'est que la Chine observe attentivement ce qui se passe en Ukraine. Et je voudrais aussi dire que la Chine ne se réjouit certainement pas de la situation de guerre en tant que telle. Elle a dû évacuer 6000 ressortissants chinois. Elle avait quand même des intérêts économiques non négligeables avec l'Ukraine, dans différents secteurs, y compris agricoles notamment. Mais pour revenir à Taïwan... La situation à Taïwan doit être prise en compte sur un calendrier qui, à mon avis, n'est pas directement lié à l'Ukraine, mais plus au mandat de Xi Jinping, qui va probablement être prolongé au-delà du 20e congrès qui aura lieu à l'automne 2022. Et puis, doit être prise en compte aussi en fonction des calendriers politique à Taïwan, mais aussi à Washington. On aura en 2024 l'élection présidentielle taïwanaise, aussi l'élection présidentielle américaine. Je ne dis pas qu'une guerre aura lieu à cet horizon. Je pense juste qu'il s'agit de périodes particulièrement tendues, d'autant que Taïwan est un point de cristallisation des rivalités sino-américaines. Hein. Pékin comme Washington sont diamétralement opposés sur le sujet, à tel point que récemment, lorsque Jake Sullivan, le conseiller à Sécurité nationale, a rencontré son homologue chinois à Rome, en amont de l'échange téléphonique entre Xi Jinping et Joe Biden, les États-Unis voulaient parler de l'Ukraine et la Chine a remis Taïwan à l'agenda en indiquant que les États-Unis devaient cesser leur vente d'armes à Taïwan et arrêter les visites de haut niveau à Taipei, etc. Donc on a bien aujourd'hui des divergences majeures concernant le détroit de Taïwan, concernant Taïwan en particulier, et indéniablement, nous ne sommes pas à l'abri d'une escalade des tensions dans le détroit compte tenu des incursions.
Merci Alice Ekman pour toutes ces indications. On va faire une pause et on se retrouve juste après. On va revenir sur cette gifle retentissante donnée à la cérémonie des Oscars.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Sale temps pour les humoristes. L'un d'entre eux, Volodymyr Zelensky, devenu le plus jeune dirigeant de l'Ukraine à 41 ans, doit résister à l'invasion militaire de son puissant voisin. Et cette semaine, l'un des plus célèbres humoristes américains, Chris Rock, 57 ans, a reçu une gifle retentissante en pleine cérémonie des Oscars après avoir fait une blague sur la femme de l'acteur Will Smith, l'actrice Jada Pinkett Smith, qui souffre d'une chute des cheveux précoce. L'alopécie. Haroun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des jeunes humoristes qui montent dans le stand-up en France. Votre premier spectacle est désormais disponible sur Netflix et vous jouerez le prochain seul à la salle Gaveau du 10 décembre au 22 janvier prochain. Ce qui est arrivé à Chris Rock, se faire gifler sur scène par un spectateur qui n'apprécie pas d'être pris à partie, c'est le pire cauchemar d'un humoriste, non ?
Je suppose que c'est surtout le pire cauchemar quand c'est diffusé, par exemple, sur toutes les télés du monde. Parce que après tout, ça peut quand même nous arriver quand on fait des blagues, quand on teste nos blagues dans des bars un peu miteux où il y a des gens qui sont un peu éméchés, quoi.
Oui, parce
C'est
que...
des altercations qui peuvent avoir lieu, mais là, vraiment, en cérémonie des Oscars avec les costumes, vraiment, on ne s'y attend pas, ça c'est sûr.
Prendre à partie individuellement les spectateurs, c'est devenu une habitude dans le stand-up, hein. Vous n'en abusez pas, mais il vous arrive d'y céder. C'est toujours un risque, c'est dangereux. On peut se sentir offensé.
Alors, c'est dangereux, c'est aussi un système de défense qui vient de l'histoire aussi du stand-up, qui est pratiqué normalement dans des clubs où il faut être aussi un peu sur la défensive et savoir se défendre verbalement. Donc oui, c'est dangereux, mais c'est aussi parce que le milieu dans lequel on arrive au départ n'est pas toujours hyper bienveillant, quand on est dans les bars en tout cas. Et en effet, mais l'humour, c'est aussi prendre des risques et flirter avec certaines limites. Donc heureusement qu'il y a une sorte de danger, sinon ce serait peut-être pas aussi drôle aussi.
En tant que professionnel, comment vous analysez ce qui s'est passé aux Oscars entre Chris Rock, Will Smith et Jada Pinkett Smith? J'ai l'impression que ça risque de devenir un cas d'école étudié par tous les humoristes dans les comedy clubs.
J'espère pas, j'aimerais bien que ça ne devienne pas un cas d'école parce que j'ai pas envie que les humoristes aient peur maintenant de faire des blagues. On analyse ça comme une espèce de. Oh, c'est une brique ajoutée à cette espèce de folie. Violente qu'on peut voir parfois dans les médias. Il y a plein de choses qui se passent ou des gens qui se parlent très violemment. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a des débordements qui font partie du spectacle. À vrai dire, moi, quand j'ai vu le geste au début, j'ai cru à un faux, à une fake. Je me suis dit, c'est une mise en scène parce que j'avais vu juste, même sans le son. Et c'est assez hallucinant, mais je dirais que ça participe à tout ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux et sur le fait de nourrir un peu la violence, comme si on voulait donner du sang aux spectateurs.
Est-ce que c'était une bonne blague? L'humoriste a conseillé à Jada Pinkett Smith de faire un remake de G.I. Jane, le film où Demi Moore s'était fait raser le crâne pour jouer une marine de l'armée américaine. Will Smith a commencé par rire et c'est en voyant sa femme qui ne riait pas qu'il a pris la mouche.
Alors c'est là la question. Est-ce que c'est il faudrait poser la question à Will Smith parce que s'il a rigolé, c'est que probablement au départ il pensait que c'était une bonne blague. Et en fait, une bonne blague peut être une mauvaise pour quelqu'un d'autre. Et c'est là toute la question qui se pose. C'est qui juge que c'est une bonne blague et qui juge qu'on a atteint une limite en humour. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de justice de l'humour. Donc bon, lui, il a voulu se faire justice lui-même, mais au départ, il rigolait quand même. Donc là, on a vraiment typiquement l'image, même l'allégorie de ce qui se passe avec l'humour, c'est qu'il y a des gens qui prennent bien les choses et d'autres qui les prennent mal. Et c'est toute une discussion qui devrait pas donner lieu à des claques, hein. Ça devrait être une discussion et ça devrait s'expliquer avec chacun sa sensibilité, quoi.
Vous avez remarqué d'ailleurs que, a priori, pratiquement tout le monde a pris le fait et cause pour l'humoriste, en l'occurrence pour Chris Rock.
Je pense que c'est un peu normal parce que. Parce que si on prend pas fait et cause pour l'humoriste, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite en fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un est outré par une blague, il pourra faire ce qu'il veut, parce qu'à partir du moment où il est vexé, il a le droit de mettre une baffe à quelqu'un. Moi, j'ai plus l'impression de voir une réaction soit de cours d'école, soit de sortie de boîte, quoi. Mais j'ai envie de dire heureusement, parce que il y a plein d'autres manières de se défendre. Et surtout que Will Smith aurait pu se défendre en ayant la cause pour lui, en fait. Et il suffit de se lever et d'aller parler, de prendre le micro et de dire voilà, j'aime pas cette blague parce que je suis dans un moment difficile de ma vie avec ma femme qui est malade, etc. Il y a plein de choses à dire qui peuvent s'expliquer, qui peuvent se comprendre sur le fait qu'on n'aime pas une blague. Et les humoristes aussi peuvent le comprendre. Et honnêtement, c'est sans cesse ça qu'on essaie d'éviter. Quand on fait des blagues, c'est d'essayer d'éviter de toucher personnellement les gens dans leur problème personnel et d'essayer plutôt de parler d'un sujet plus large. Là, la blague de Chris Rock, je dirais qu'elle peut être prise comme une dédramatisation de la maladie de cette femme. Et c'est comme quand on rigole avec des gens handicapés ou des minorités. C'est-à-dire que on parle de leurs problèmes avant de parler d'eux-mêmes ou de se moquer d'eux-mêmes. Donc c'est toute une question de où est-ce qu'on met le curseur. Et en tout cas, il y avait moyen de se défendre différemment.
Il a été très très surpris par le coup que lui a assigné Will Smith, Chris Rock. Hein. Lui aussi, à mon avis, a cru que c'était une blague quand il a vu Will Smith monter sur scène. Mais après le coup, il a gardé son aplomb. L'aplomb, c'est la qualité première de l'humoriste sur scène.
On est obligé parce que si l'humoriste perd ses nerfs, il a perdu. Si on perd notre calme, si on perd notre souplesse, je dirais, on a perdu et ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise avec ce qu'on vient de dire. Et on est obligé de garder l'aplomb et c'est pour ça aussi qu'on s'entraîne dans les lieux dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les bars miteux et avec des publics qui sont pas toujours amicaux. C'est parce qu'il faut sans cesse rester à l'aise face à ça et il faut sans cesse rester à l'aise face à n'importe quelle situation. Ça fait partie de notre métier et il faut s'y entraîner parce que tout peut arriver. On a tous vécu des moments un peu soit géniaux, soit dramatiques, mais avec lesquels on vit et souvent on garde un souvenir impérissable.
Et ben vous allez peut-être nous en raconter un ou deux, mais juste après une pause.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Haroun, le jeune humoriste qui monte. On revient sur cette scène de télévision quasiment inédite hein, à ce niveau-là, en tout cas dans une cérémonie aussi policée que les Oscars. Un acteur qui vient venger sa femme en assénant un coup au visage à l'humoriste qui vient de faire une blague sur elle. On ne l'avait encore jamais vu, ça restera dans les annales. Vous nous disiez juste avant la pause que vous aussi, vous avez vécu des moments difficiles, des moments délicats, par exemple.
Oh, j'en ai vécu plusieurs, mais le dernier qui me vient, là, c'était il n'y a pas très longtemps. J'étais en tournée à Liège, dans une belle et grande salle, et il y a une dame du premier rang qui s'est levée brusquement au bout de 8 ou 10 minutes de spectacle, et j'ai cru qu'elle avait un problème, et je lui ai demandé si ça allait, et elle m'a dit « Non, mais faut que j'y aille », et je lui ai dit « Mais ça va, tu te sens bien ?» Elle m'a dit « Non, c'est parce que c'est pas drôle ». Et elle est partie. Et face à ça, il a fallu réagir et j'ai expliqué au public à ce moment-là ce que je ressentais et je leur ai dit que c'était pas grave et que j'avais déjà vécu des choses bien pires en scène ouverte quand on essaie nos blagues. Bon, quand on est face à des gens qui ont bu 2-3 pintes avant et avec qui on a des altercations qui sont plus ou moins houleuses, disons. Mais ça, c'est pas très grave. Mais là ça avait un peu plus d'ampleur parce que c'était une grande salle. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire et j'en ai rigolé pendant tout le spectacle avec le public ensuite. Mais sur le moment, si on n'est pas habitué à ça, on peut se dire « Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que cette personne, elle s'est sentie vexée, etc. ?» Mais il faut faire avec. Et quelque part, l'art, c'est fait aussi pour bousculer un peu les gens parfois. Parfois, ça les bouscule pas dans le bon sens, mais tant mieux quelque part.
Oui. Quand c'est plus houleux, il est arrivé que ce soit physique?
Non, moi non. Mais j'ai déjà vu des humoristes face à des publics, face à des gens qu'il faut sortir de la salle un peu manu militari parce qu'ils sont... Ils sont beaucoup trop présents. Ça, c'est des choses qui se passent sous l'effet de l'alcool. Hein. Vraiment, c'était pas des blagues en particulier qui les touchent. Mais j'ai vu aussi des blagues qui touchent vraiment des gens où ils ont ils font la tête sur tout le reste du spectacle. Et c'est vrai qu'après, nous humoristes, on peut aussi dépasser les bornes. Ça peut arriver, bien sûr. Et ça, il faut faire avec. Et il faut s'entraîner à savoir dépasser les bornes. En fait, il y en a qui savent très bien le faire. Et ça, ça demande des années, d'expérience.
Will Smith, on a voulu le dégager manu militari, mais enfin, il a refusé de quitter la salle. Il a fini par présenter ses excuses, d'ailleurs, y compris à Chris Rock un peu plus tard. Mais enfin, entre-temps, la police est intervenue assez rapidement. Elle a proposé à Chris Rock de porter plainte. Ils étaient prêts à aller arrêter Will Smith hein, sur le champ. Hein. La loi était du côté de l'humoriste, mais Chris Rock a refusé de porter plainte. Est-ce qu'il a eu raison?
Oui. Moi, je pense qu'il a eu raison. Je pense que c'est quelque chose qui peut se régler sans la loi. Je pense que c'est... Et la charge émotionnelle de certains acteurs doit être telle qu'il peut y avoir des débordements. Je suppose que c'est des gens qui peuvent aussi être sujets à des burn-out et qui peuvent être sujets à la pression, au regard des gens, etc. Il y a possibilité de s'expliquer sans que ça prenne des ampleurs avec des juges, des avocats, des millions de dollars... En effet, c'est une blague qui est réussie selon certains, ratée selon d'autres, ça se discute. C'est une claque qui blesse, ou
Oui, qui fait le tour du monde. Qui fait le tour du monde quand même. L'humiliation.
C'est une humiliation relative. C'est quelque chose qui se passe et apparemment le public a défendu Chris Rock. Donc c'est une humiliation relative, mais ça se discute. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut régler. Enfin, je veux dire, si ça se passait dans la société civile entre guillemets, parce que bon, on dirait le showbiz, mais si ça se passait dans la société civile, peut-être que ça ne vaudrait pas un procès qui dure oui. Je ne sais pas combien de mois et combien d'années. Ça se règle quand même.
Haroun, les humoristes ont tendance à se plaindre qu'on ne peut plus rien dire, que les gens se vexent facilement. Certainement, ceux qui regardent des extraits du spectacle en vidéo sur Internet, mais est-ce que c'est vrai aussi de ceux qui ont payé leur place et qui sont dans la salle? Est-ce qu'eux aussi, au fond, se sentent facilement offensés et ont tendance à réagir?
Non, moi je dirais pas ça, et je dirais même pas qu'on peut plus rien dire. Il n'y a qu'à aller voir un peu l'histoire de la liberté d'expression pour voir que on n'est pas si mal quand même. Je dis pas que c'est parfait, hein. Il y a plein de travers, il y a plein de contradictions. Il faut encore lutter, c'est pas fini, mais il y a une époque où quand on ne faisait pas gagner le gentil à la fin, des gens pouvaient monter sur scène pour contester. Hein, donc il y a une époque où on pouvait se prendre des trucs sur scène, les gens lançaient. Enfin, je veux dire,
ça
n'a jamais été très facile.
On les faisait moins intervenir à l'époque du temps, je ne sais pas moi, de Fernand Reynaud, de Coluche même. On ne taquinait pas le public individuellement en s'adressant à lui, comme on le fait aujourd'hui dans le stand-up, comme l'a fait Chris Rock avec la femme de Will Smith.
Eh bien, figurez-vous que j'ai vu des extraits de Robert Lamoureux qui fait des blagues sur la robe d'une dame, sur la robe de deux dames d'ailleurs, dans le public.
Ah ouais.
Et il n'est pas très tendre avec elle. Et,
c'était les années 50-60. Hein, Robert Lamoureux, c'était les années 50-60.
Ah ouais, c'est ça. C'est du noir et blanc. La vidéo est d'assez mauvaise qualité, mais il interpelle, et je pense que les cafés-théâtres n'étaient pas vraiment tendres. Hein. Ouais. J'étais pas là pour le dire, mais ça serait intéressant de se pencher là-dessus. Je pense que la cruauté dans l'humour fait partie du spectacle. Le tout, c'est de savoir, est-ce qu'on arrive à dépasser la cruauté? Est-ce que le rire dépasse la cruauté? Ou si on n'est pas assez drôle, on n'arrive pas à la faire oublier? Et c'est ça le problème.
Dernière question, Haroun, sur Zelensky. Voilà un humoriste qui écrit et qui joue dans une série où il devient malgré lui président de son pays et qui devient effectivement président de son pays et qui ensuite est attaqué par son voisin bien plus puissant et doit résister et qui devient le héros de la résistance de son pays. Est-ce que le métier d'humoriste vous prépare à ça?
À vrai dire, franchement, je souhaite à personne de vivre ce qu'il vit. Mais il est là, il a l'air de le prendre avec beaucoup de flegme et peut-être que la scène l'a aidé à faire ça. Hein.
Merci Haroun. Je rappelle que votre premier spectacle est désormais disponible sur Netflix et que vous jouerez le prochain seul à la salle Gaveau du 10 décembre au 22 janvier prochain. On fait une pause. On se retrouve dans un instant avec une jeune chanteuse. Elle s'appelle Emma Peters.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadie.
Bonjour Emma Peters.
Bonjour Frédéric.
Vous avez 25 ans, vous êtes fait connaître sur YouTube en postant chaque dimanche des reprises qui ont cumulé des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des millions de streams. Aujourd'hui, vous sortez votre premier album, Dimanche, mais pas de reprises, que des chansons originales, écrites et composées par vous-même. Je trouve que c'est un bain de fraîcheur. Vous allez voir, ou plutôt vous allez entendre, il y a même des mélodies.
Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il n'y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je peux faire oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi
Peters, on pourrait presque le siffloter cet air.
Ah bah avec plaisir, vous pouvez le siffler, il n'y a pas de problème.
Non mais le siffloter, vous m'avez bien compris, pas pour le critiquer.
Non
mais,
bien sûr.
Mais c'est devenu rare, on sifflote plus les chansons.
Bah moi j'ai toujours grandi avec beaucoup de mélodies dans la tête, donc c'est vrai que pour moi c'est important qu'on puisse fredonner ma chanson si on arrive à s'en souvenir, pour moi c'est un bon signe.
C'est vrai que vous ne savez écrire que quand vous êtes triste.
C'est ce que je dis ouais, dans le dernier morceau de l'album. C'est pas vraiment ça, c'est que j'ai toujours eu pour habitude depuis toute petite de me consoler avec ma guitare. Et c'est vrai que comme j'ai toujours un peu du mal à m'exprimer dans la vie et à choisir les mots, quand je suis un peu frustrée dans le monde réel, je prends ma guitare pour me réconforter un peu. Et donc c'est vrai que quand je suis triste ou pas très bien, je suis plus inspirée que quand je suis gay.
C'est peut-être parce que vous jouez de la guitare depuis petite qu'il ouais. y a des mélodies. Au fond, la musique d'aujourd'hui, elle est faite par des gens qui ne sont pas musiciens.
Bah, la musique a beaucoup changé, mais j'ai bon espoir. J'ai l'impression que même dans le rap que j'aime tant, il y a plein de prods qui sont beaucoup plus mélodieuses qu'il y a quelques années. Donc, mais oui, j'ai commencé la guitare toute petite, donc je suis vraiment très inspirée par la musique.
Et ben, on va écouter cette dernière chanson de l'album, 23h02, dans laquelle vous nous expliquez comment vous êtes au fond.
Je suis pas réel mais faut filmer ces soirées où je fais n'importe où, je suis pété et tout ce que j'écris c'est éclaté. J'en viens même à me demander si c'est vrai ce qu'ils disent en radio à la télé. Est-ce que j'ai vraiment du talent ou c'est la chance du débutant? Je pourrais pas vivre au SMIC, j'aime trop l'argent, faut du bif, mais c'est pas pour ça que je chante. Moi j'ai trop de mélos dans la tête et je veux des cadeaux, faire la fête. Mon problème c'est qu'il me faut tout en même temps. Je souris mais ça va pas bien dedans, plus d'amis que des groupies qui parlent mais qui connaissent pas ma vie. Moi je sais écrire que quand je suis triste, c'est le sentiment que je connais le mieux. Et parfois pour me prouver que j'existe, je conduis en fermant les yeux. J'ai peur de l'échec comme Orelsan, peur de décevoir mon public. Je vaux plus rien si l'inspi est en panne. Combien écouteront ma musique? Au moins j'ai deux parents qui achèteront le disque.
Mais je suis contente qu'elle ait retenu votre attention celle-ci, parce que c'est un peu particulier. En fait, je l'ai vraiment faite dans ma chambre, on n'est pas du tout allé en studio. C'est moi qui ai tout fait autour et on l'a rajouté dans l'album comme ça un peu au dernier moment, parce que sinon on n'avait que 13 titres et ça me stressait d'avoir un chiffre un peu... Non, je ne suis pas superstitieuse, mais je me suis dit sur un premier album, il vaut mieux pas prendre le risque. Donc 13 titres, ça ne m'allait pas, fallait en rajouter un et donc j'ai produit ça dans ma chambre et on l'a rajouté, donc je suis contente qu'elle passe à la radio.
Et dans une chanson dans laquelle vous dites j'aime trop l'argent, que je ne pourrais pas vivre au SMIC. C'est rare un artiste ou une artiste qui dit j'aime l'argent.
Alors j'aime pas tant l'argent, mais j'aime le confort. J'ai besoin d'être bien là où je vis et du coup voilà, j'ai pas envie de regarder mon compte en banque, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, mais l'argent en lui-même, ça me met pas très à l'aise parfois.
Ailleurs, dans une autre chanson, vous dites « Toutes mes névroses me portent bonheur, j'en fais de la prose, j'en fais du beurre ».
Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en fait, je me rends compte qu'effectivement, dans ma tête, parfois, il y a des trucs qui sont pas très... je sais pas, j'ai des trucs un peu chelous quoi, qui se passent. Je vois bien que c'est pas pareil chez tout le monde. Et c'est vrai que j'en fais mon métier, finalement. Donc c'est pour ça que je pense que mes névroses me portent bonheur.
Mais on a l'impression que tout ce que vous chantez est vrai. Ce n'est pas pour faire joli, vous dites la vérité.
Ouais, je dis les choses comme je les vis, comme je les ressens. Et puis comme j'ai envie de les dire aussi. Pendant longtemps, au début, quand j'écrivais des chansons, j'essayais de faire bien, de faire beau, de faire comme les artistes qui m'ont bercée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois dans mes chansons comme je suis dans la vie. Donc ça donne quelque chose d'assez honnête, ouais.
Mais en même temps, Jacques Brel, Aznavour, Beco, même Alain Souchon nous racontaient notre vie à nous qui les écoutions. Vous racontez votre vie à vous.
Oui, je raconte ma vie à moi et en même temps la vie de mes proches et de tous les gens qui m'entourent et qui m'inspirent beaucoup. Et en fait, c'est plus un partage parce que maintenant que l'album est sorti, je reçois pas mal de messages de gens qui me disent « Merci, t'as réussi à mettre les mots sur un sentiment ou sur une situation que j'étais en train de vivre. » Donc je me sens beaucoup moins seule maintenant.
On va écouter « Allez, salut !»
Regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. Posons le constat là que ça marche plus du tout. En plus j'ai l'air de quoi, depuis des mois, tirer sur ta manche. Je voulais de l'émoi, c'était trop, pardonne-moi, maintenant faut qu'on nous débranche. Je vais quand même pas te consoler, alors que c'est toi qui m'aimes plus. Je vais quand même pas te réconforter, alors que c'est moi qui suis déçue. J'ai envie de te dire, on a 20 ans, le monde est grand, le monde est grand.
celle qui te fera jouir en trois mouvements. Tu trouveras celle qui te fera souffrir autant que ce que tu me fais maintenant. Allez, salut, je vais pas traîner, ça n'a pas de sens. Allez, salut, je vais garder ma dignité, je vais garder ma décence. Allez, salut, j'aime pas du tout celle que je suis devenue. Allez, salut, et je vois bien que t'aimes pas du tout non plus.
Emma Peters, j'ai l'impression que vous passez votre temps à vous faire quitter dans ce disque.
j'ai connu ouais, une première rupture assez douloureuse et c'est vrai que c'est
et vous en faites
malheureusement
votre beurre. Et vous
j'en fais mon beurre. Ouais, c'est malheureusement assez inspirant. Mais l'histoire de cette chanson là qu'on vient d'entendre, Allez Salut, c'est la seule chanson de l'album que j'ai pas écrite. Et en fait, elle a été écrite par quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Ben Mazuet. Et dont je suis très fan, et il m'a envoyé.
Et dont vous faites les premières parties.
Et dont je fais les premières parties, mais à l'époque, quand il m'a envoyé cette démo, on s'était jamais rencontrés. Et juste, il m'a dit, voilà, je travaille sur la réédition de mon album, et je pense que j'ai fait un peu trop de chansons de rupture à mon goût. Et il m'a dit, je la chanterai pas, si elle me fait un peu penser à toi, si elle te plaît, je te la donne. Et effectivement, bizarrement, elle me ressemble beaucoup, cette chanson.
Vous êtes en effet en tournée depuis le 24 février.
Oui.
Vous serez lundi à Rouen, au Zénith, en première partie de Ben Mazuet. Mardi, vous serez à Nantes, le 7 avril à Bordeaux, à la Rock School Barbet. Vous êtes toute seule sur scène ?
On est trois. Je suis accompagnée de Dave qui fait de la basse et de la guitare et Steph qui fait du clavier.
Donc a priori, ça se passe bien.
Ça se passe très très bien. On s'amuse beaucoup, on fait beaucoup de musique. C'est vraiment, depuis le début de la tournée, ça se passe super bien.
Et avec le disque, c'est pareil ?
Et bien justement, là, maintenant que le disque est sorti il y a une semaine, on sent vraiment un avant-après. Ça y est, les gens peuvent chanter les chansons. Ils me disent quel est leur préféré et tout, donc ça fait trop plaisir.
Ça fait trop plaisir d'avoir du public. Hein.
Ouais, de ouf, carrément. Non, c'est génial de pouvoir chanter devant les gens. En plus, moi, j'ai commencé à faire de la musique au moment où on était confinés. Donc, j'ai eu toute une première partie d'aventure uniquement sur les réseaux sociaux. Et donc, quand on a commencé la tournée, j'étais très stressée de me dire, mais qui va venir quoi, et qui sont ces gens, en fait, qui m'écoutent. Et en fait, c'est trop bien, c'est des super moments.
Eh bien, Emma, je vous souhaite le meilleur.
Merci
pour
beaucoup.
La suite. L'album s'intitule Dimanche. Je l'ai trouvé formidable.
Bah merci, ça me fait vraiment plaisir.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et terminé. On se retrouve demain matin à 9h. Vous avez maintenant rendez-vous avec Pierre de Villeneuve et les grandes voix. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Quel est le programme ?
Eh bien, dans 8 jours, le premier tour de la présidentielle. Quel portrait robot de cette dernière ligne droite ? Le dossier McKinsey, énième scotch du capitaine Macron et puis l'Ukraine. Quelle perspective au 38e jour de guerre sur place ? Nous poserons la question.
Eh bien, bonne émission.
Merci Frédéric.